Alors aujourd'hui, on va faire un moment ensemble sur Abraham en trois volets. Le premier volet, c'est qui est-il ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui. Donc là, j'ai plutôt dépeint un personnage avec quelques qualités, quelques traits de personnalité, je dirais. Ensuite, on va aller dans l'écriture de Abraham, de Genèse 12 à Genèse 25. Oui. On va le traverser. Pourquoi ? Parce que pour certains, c'est du connu, mais pour d'autres, c'est... J'ai pas eu le temps de lire le message, je me souviens plus, ou je n'ai plus lu depuis longtemps, ou je n'ai jamais lu une partie. Donc on va le faire en avancée, et puis de voir quelques petits enseignements. Et puis, je pense, l'application, si on arrive, de voir Abraham dans l'Ancien Testament, la suite de Genèse 26, et Abraham dans le Nouveau Testament. On ne va pas les faire tous, parce qu'il y a beaucoup d'occurrences, mais on va en faire quelques-unes pour nous dire... Voilà des choses que l'on croit même. Moi, je vous dis toujours, je cherche toujours à découvrir des choses importantes. Dans Malachie 2,16, vous allez voir aujourd'hui comment est-ce que Malachie lui-même va utiliser Abraham. Très, très, très puissant. Alors voilà, Abraham, qui est-il ? Abraham, c'est d'abord Abraham. Je le redis. Donc Abraham, c'est d'abord Abraham, comme tout le monde le sait ici. Donc, père du Très-Haut ou père de l'éminence, oui, est appelé un fils. C'est quand même pas mal, ça. Bonjour, père de l'éminence. C'est un petit peu comme si on s'adresse au curé. Bonjour, mon père. C'est père de l'éminence. Que Terra, son papa l'a appelé. Il fallait oser quand même. Il est un personnage donc, qui apparaît en Genèse 11, dans la généalogie de Noé. Il est en effet le huitième arrière-père. Enfin, le huitième fois arrière-petit-fils de Noé. J'ai dû calculer, j'espère que je suis juste. C'est peut-être 9 ou 7, mais en tout cas, il est Noé et son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Voilà, huitième génération, tout à fait. C'est encore mieux dit ça.
Son petit-petit-petit-fils.
Voilà, voilà. Il semble être, ce que j'ai découvert cependant maintenant, récemment donc, être le cadet des trois fils. Moi, je pensais qu'il était comme... Quand on avait fait Sem, Cham et Japhet, et puis après on s'est rendu compte que Japhet n'était pas le cadet, mais c'était bien Cham, j'avais marqué son nom. Eh bien ici, j'ai vu qu'Abraham était le cadet, donc c'est le petit. C'est le petit dernier. Abraham, c'est rigolo ça, c'est le petit dernier. Il a deux frères, enfin il avait, Nahor, qui est marié à Milka, rien à voir avec le chocolat, et qui aura comme fils Bethuel. Oui, Bethuel. Le père de Rebecca. La nourrice, là, tu nous avais bien eu avec ta nourrice. J'ai vu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Donc, le père de Rebecca, qui est sa future bru. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas le mot bru, ça veut dire...
C'est pas de l'eau.
Ça n'a rien à voir avec l'eau. La bru, ça veut dire que, par exemple, si Clément a un enfant qui est marié avec une fille, oui, donc s'il a un garçon, Stéphane, qui a une fille, c'est sa bru. D'accord. Donc, le père de Rebecca, ça va être sa belle-fille. C'est sa belle-fille, en fait, voilà. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Mais le mot chic, c'est bru.
Oui, c'est comme gendre pour beau-fils.
Quoi. C'est pour gendre pour beau-fils, voilà. En fait, Pascal, tu fais compliqué quand tu peux faire ça. Et puis, le père de Rebecca, donc sa future bru. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien de famille parce que c'est lui qui va être, donc... Rebecca et son fils Isaac ensemble pour continuer la génération. Mais on va voir comment c'est un peu tordu pour y arriver, ce truc-là. Donc sa propre petite nièce, donc grande cousine de Isaac, qui se mariera. La grande cousine qui est la petite nièce. Rendez-vous à la case départ. Ok, alors. Mais l'horreur de Terra, et je pense qu'on doit se rendre compte, ça passe comme ça inaperçu, Terra. Ça n'a rien à voir, Terra. Puis Terra, non, c'est Terra, c'est le père d'Abraham. Lui, il va perdre son enfant. Son enfant, donc qui semble être le premier ou le deuxième en tout cas, qui s'appelle Haran. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'Abraham va perdre son frère. C'est quand même pas rien. Il y en a ici qui savent ce que c'est que de perdre un proche, tout proche comme ça. Et de ce fait, il va être... le papa de Lot. Enfin, il va être finalement celui qui va s'occuper de Lot, son petit neveu. Oui. D'accord ? C'est quand même assez fort qu'une perte va faire que le neveu va devenir très très proche. Et alors, en passant comme ça, Haran va être nommé, c'est une ville, hein, pour donner quand on perd quelqu'un, hein, un hommage, oui, pour donner un hommage à ce père, à ce fils, oui, un frère, qui est décédé, quand ils vont partir d'Ur en Chaldée, quand Dieu va leur demander de partir vers un pays qu'ils ne connaissent pas, ils vont faire un arrêt en milieu du chemin, donc vous avez la Mésopotamie qui est là, on monte, là, il y a Haran, et puis il y a là le pays Canaan. Il y en a qui disent pourquoi ils n'ont pas fait comme ça, ça aurait été plus facile le triangle de l'hypoténuse, parce que là c'était le désert et qu'il n'y avait pas d'eau, alors que là c'était l'Euphrate, tout ça, et hop. Donc, ils s'arrêtent en milieu de chemin à Haran. Oui, Haran, qui est donc le nom du frère, et j'imagine qu'ils ont nommé Haran, et pas qu'ils se soient dit, on va aller à Rana, tiens, c'est comme ton frère. Haran, donc, ville qu'ils vont nommer dans leur parcours. C'est une ville aussi très difficile pour Abraham, parce que c'est là qu'il va perdre son père. Un moment très dur aussi dans la vie. Enfin, je suis rentré dans le personnage d'Abraham, parce qu'on fait tout le temps, père de la foi, mais il a vécu des choses, cet homme. Il semble que son père Terah avait plusieurs femmes aussi. Étonnant, comment la Bible nous le dit, elle dit, puisqu'il a aussi Sarai qui va devenir Sarah, c'est ça, femme. Mais sa femme, elle est sa parente, puisqu'elle est sa demi-sœur. Vous me suivez? Oui. Donc, il va dire dans Genèse 22, de plus, elle est réellement ma parente quand il va avoir un problème avec Abimélec. Hein? Il va toujours dire à tout le monde, dis que tu es ma sœur, dis que tu es ma sœur. Et tout le monde va dire, menteur! Mais en fait, c'est vrai qu'elle est sa sœur. Mais demi-sœur, il aurait pu dire demi en plus. Mais il est quand même sa sœur. C'est qu'il va se marier avec sa sœur. Qui est? Elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Ok, vous me suivez jusqu'à là? Elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Donc, ils ont quand même tout le... Donc, Sarah, je ne sais pas, moi, c'est comme toi et Eunice, vous auriez le même père, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, c'est un peu débile. Mais c'est ça, en fait. Donc, il est donc l'oncle de Lot, son neveu, dont il aura la charge suite au décès de son père. Il a une femme, alors, elle est décrite, cette femme. Il n'avait pas les yeux dans sa poche. Abraham, il a fait une femme qui était divinement belle. C'était le... Quand il arrive en Égypte, t'as tout le monde avec Abimelech et tout le monde est là. Enfin, c'est waouh, quoi. Gobsmacking, comme on dit, la bouche grande ouverte. Hein? Il faut imaginer la femme, quoi. D'accord? C'est un peu la mienne, en pire. Okay? Alors, donc, jusqu'à. Elle, et en plus, cette femme, elle est stérile jusqu'à 90 ans. Sarai, qui est sa demi-sœur, oui. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit peu ce problème avec Abimelech, puisque vous connaissez l'histoire, il va arriver, il a dit, écoute, dites t'es ma sœur, et puis alors on va être bien vu. Préjugé de Abraham, qui avait un petit peu peur qu'il soit trucidé par Abimelech. D'ailleurs, à un moment, il va être devant Abimelech, il va dire, mais oui, je t'assure, c'est ma sœur. D'ailleurs, elle-même l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère. Donc, ils sont d'accord, hein, au moins ils sont d'accord. Oui, c'est mon frère, c'est écrit dans l'Écriture, j'ai bien dit quand j'ai lu ça. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi, va dire Abimelech. Parce qu'Abimelech, à cause d'Abraham qui va dire ce petit déformation de la vérité, c'est que Abimelech va être plein de pustules, enfin il va être malade, sa femme va être stérile et toutes les femmes de la contrée d'Abimelech vont être stériles. Ça va commencer un peu à sentir mauvais, j'allais dire un autre mot, mais sentir mauvais. Hein? Bon. C'est bien son père Terah qui quitte avec la famille en Ur en Chaldée, parce qu'on dit toujours c'est Abraham qui a quitté Ur. C'est un peu compliqué, je trouve, dans l'écriture, parce que c'est bien son père qui quitte avec la famille Ur en Chaldée pour Canaan, oui, mais c'est quand même son père qui lui s'arrête et s'établit à Haran. Donc ça veut dire que le père n'a pas accompli ce que Dieu lui avait demandé. Parce qu'il n'est pas mort à Haran parce qu'il est mort à Haran, il est mort parce qu'il s'y est établi et qu'il a fait « c'est bon, moi je suis à mi-chemin ». Et Dieu lui dit « non, c'est pas ici la fin, c'est continue, il y a encore un demi-chemin à faire », c'est-à-dire juste 1000 km. Hein. En d'autres chameaux, etc., il n'y avait pas de tracteur à l'époque, ni d'avion, donc il faut se dire « c'est quand même encore 1000 km à faire ». Et donc, il a perdu son frère, il a perdu son père, et le voilà qui part Je pense que si on se met à la place d'Abraham, il part dans la douleur. Il ne part pas en se disant « Ouais !» Hein? Il n'y a pas de signe comme aujourd'hui, hein, Canaan, tout droit, à gauche, à droite. Hein, il n'y a pas de boussole, donc il faut y arriver. On ne sait pas trop où on va. Et Abraham aurait apparemment 135 ans quand son père meurt. Vous allez me dire, c'est un peu vieux. Ben, il n'était qu'aux deux tiers de sa vie. Hein. C'est un peu moi qu'aujourd'hui, 42, je suis à mon deux tiers de ma vie. Hein. Enfin, Dieu voulant. Peut-être la moitié aussi. Alors, on dit dans l'Écriture que Abraham est un prophète aussi. Ce n'est pas simplement un homme qui va prendre soin de son neveu, qui va quitter, qui est un homme d'armée, qui va obéir à Dieu, qui va quitter tout. C'est aussi quelqu'un qui est un prophète, qui voit à l'avance. Oui. C'est aussi un creuseur de puits. Il en a fait des puits. Et je veux dire, à l'époque, pour nous, on se dit, un creuseur de puits, c'est quoi? Mais c'est énorme, hein, un creuseur de puits, même aujourd'hui, ça prend du temps. Mais là, il n'y avait pas de machine, etc. Un creuseur de puits, c'était une année de travail, je crois, de creuser un puits, ou peut-être 6 mois. Enfin, c'était du boulot de creuser un puits, d'aller chercher l'eau. Et être creuseur de puits, à l'époque, c'était un des meilleurs métiers du monde, on va dire, parce que tout le monde allait être abreuvé, autant les chameaux, les ânes, etc., que les humains. Donc, c'était un... Je veux dire, cet homme, il a plusieurs casquettes. C'est ça qu'on voit à travers sa vie, quoi. C'est un homme aussi, ça c'est plutôt dans le détail, mais qui n'accepte pas de cadeaux comme par le premier temps avec Abimélec. Oui. Parce qu'au début, avec Abimélec, bon, il est quand même reparti avec plein de chameaux et d'ânes et de l'or, etc. Hein. Malgré qu'Abimélec a dit, va-t'en, maintenant je ne veux plus te voir, mais garde tout ce que je t'ai donné. Hein, parce que la richesse d'Abraham, on dit souvent, il était riche, oui, mais c'est quand même Abimélec qui lui a donné. Après, Abraham va être beaucoup plus riche qu'Abimélec, et puis il va rendre à Abimélec, ça j'ai vu après dans l'Écriture, une richesse aussi à Abimélec. On voit un Abraham qui est en train d'être transformé, qui fait des erreurs et qui est transformé. Ça, c'est intéressant. Et c'est comme ça que Spiro et moi, on est devenus des amis. Parce que à Spiro, je lui dis, écoute, comme tu viens d'arriver, je peux te donner peut-être quelques argent et t'aider. Et il m'a dit, non, moi je veux travailler ici. Je veux travailler. Il n'est pas question que tu me donnes de l'argent. Et puis, c'est comme ça que des choses se sont faites entre nous, hein, avec son épouse. Mais j'ai trouvé ça très, très fort. Et de la même façon, il va dire, quand il va acheter le champ pour sa femme, quand elle va être enterrée, hein, les Hittites, il va leur demander, voilà, on te donne pour l'enterrer. Il va dire, non, moi, je veux acheter ce champ. Je veux rien recevoir, je veux acheter. Et puis quand il va défendre Lot, etc., on va vouloir lui donner des cadeaux. Fait, non, moi je veux rien. Oui, c'est que la grâce. J'ai fait les choses parce que Dieu m'a dit de le faire. Ensuite, on voit dans l'Écriture, plus loin, qu'il est appelé un ami de Dieu, toujours se tenant en présence de l'Éternel. Donc ça apparaît quelquefois, c'est un homme d'hospitalité, quand il y a ces trois là qui arrivent, qui sont sur ce chemin, il est tout content, il fait « Ah, mais asseyez-vous, je vais vous laver les pieds, je vais vous loger, je vais faire des galettes, de la viande et tout ça, et je tue un chevreau. » Enfin, vous voyez, il se plie en quatre, c'est quelqu'un, cet homme, oui, qui finalement apprécie ce que Dieu est en train de lui mettre sur son chemin. Et c'est là qu'il va recevoir la bénédiction d'ailleurs, et la confirmation de quoi ? Qui va y avoir une descendance, Isaac. Vous vous souvenez de ça? D'où on va dire après, vous ne savez jamais quand vous recevez des gens chez vous, si vous avez des anges, hein, qui viennent chez vous. C'est un petit peu ça en fait, hein, c'est un peu dans ce style-là. D'ailleurs, nous avons eu une semaine avec la meilleure amie de Jude, qui était donc la best woman, comment on dit ça? Best mate, bridesmaids, à son mariage. Elle est pas bien pour l'instant, et nous non plus, et c'était vraiment des anges dans notre vie. C'est vrai que parfois, quand on accueille des gens comme ça pendant 5 jours, on s'est dit, on va être crevé après 5 jours. Non, ça a été que des bénédictions, on a prié beaucoup ensemble, on a pleuré ensemble, etc. C'est vraiment quand c'est les enfants de Dieu qu'on reçoit à la maison, on en gagne, mais 5 fois plus, quoi. Toujours invoquant l'Éternel, toujours en dialogue avec lui, ok, intercédant pour Lot quand il voit le mal, il dit, hein, vous connaissez cette histoire aussi, Lot. Oui, mais lui, il est quand même un bon, un juste. Tu vas supprimer Sodome et Gomorre de la carte, mais lui, il est là. Donc, il va intercéder pour son neveu. C'est un homme de prière, on le voit souvent prier. Pam, 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 pam. Et hein, c'est lui qui va guérir Abimélec aussi dans ce moment-là, hein, parce qu'Abimélec va faire oh, ok, c'est un homme de Dieu, Abimélec.
C'est Pharaon, Abimélec.
Oui. Et il va prier pour lui, et il va guérir, et tout le monde va guérir, et ils vont même devenir potes. Et Abimélec va faire partie de Genèse pendant quelques temps. Je trouvais ça très beau aussi. C'est un homme d'une énorme humilité, comme nous le savons. Il va dire à un moment, je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Je trouvais cette phrase belle, quoi. Je ne suis que poussière et cendre, hein, je retournerai à la terre, comme toi mon frère. Et pourtant j'ai osé parler à ce tout grand. J'adore.
C'est pour ça qu'on t'appelle une petite chère.
Considéré par Abimélec, les rois de l'époque, Melchizedek, on en reparlera un petit peu, et voire même les Hittites, comme le prince de Dieu. C'était un homme qui était connu, mais vachement connu de son époque, énormément. C'est un homme qui aime énormément la justice. Quand il va dire, tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant, toi qui es le juge de cette terre entière. Oui, quand il intercède. Et il va même, et je termine par le premier volet, je vous ai dit, on prend en trois, il va même, et ça c'est connu évidemment, c'est quand on parle à Abraham, il y a ça qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on prend Abraham?
Il va tuer son fils.
Hein?
Il va tuer son fils.
Mmh. Va-t-il tuer son fils, c'est ça que Dieu lui demande?
Il va accepter de sacrifier.
Il va accepter que... C'est ça. Ça c'est vraiment le truc de totalement débile à notre connaissance d'aujourd'hui. Oui. Si on arrive un peu à remonter le temps et de se remettre, il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sacrifices d'enfants. Beaucoup. Et j'imagine, ça c'est ma compréhension, je la partage, mais ce n'est pas nécessairement ça, mais dans tous les textes que j'ai lus, j'imagine que le fait qu'il y ait eu ce sacrifice de Isaac, cette possibilité que ça se soit passé, c'était pour montrer une différence dans le peuple d'Abraham et d'Hébreu, qu'il ne peut pas faire un sacrifice. Et il lui dit, je te pousse à le faire devant l'Éternel, mais Dieu va dire, mais non, tu m'as cru, mais moi je pourvois au sacrifice. Et c'est là qu'on voit un type du Christ, bien sûr, hein, un type du Christ, pour la suite où Dieu va lui-même faire le sacrifice en venant. Mais disons que ça donne un petit peu un avant-goût de tout ce qui est en train d'arriver. Messianique, on va dire. Oui. Quel est donc à cet homme, vous avez vu quand même le personnage, c'est du solide, quoi. Hein, moi, quand je lis, je fais, ok, les casquettes qu'il a et tout. Après, ben oui, mais il a vécu deux fois mon âge aussi, hein, 65 et tout. On comprend, quoi, quand même, le gars fait quatre fois mon âge aujourd'hui. Ok, donc ça va, quoi. Sa mission, elle est très simple, c'est quitte ton pays. Demandez à Spiro ce que ça donne, hein, demandez à Sarah ce que ça veut dire, quitte ton pays. Demandez à nos deux amis ici, américains, quitte ton pays. C'est balèze de quitter tout. Et Jude.
Et
toi. Et moi. Finalement, on va faire le contraire. Qui n'a pas quitté son pays, ça ira plus vite. Donc, il y a la moitié de l'église ici qui a quitté son pays, par amour souvent, hein, ou par mission. Ou par, hein, vous savez ce que ça coûte de quitter un pays. C'est quitter plein de choses. Mais on se rend compte aussi quand même qu'il y a, chez Terah, son papa, un côté polythéiste, hein, qui embrasait un peu plusieurs choses, etc., qui faisait des sacrifices, on pense. Donc, évidemment, c'était pour des choses meilleures, pour la famille, en tout cas, d'Abraham. Et il lui dit, voilà, pour aller au pays de Canaan, celui que son 8 fois arrière-grand-père avait maudit. Hein, c'est vrai, parce que Canaan, il dit de retourner à Canaan, cet endroit qui avait été maudit hein, du temps de Noé, on l'a vu il y a une ou deux semaines. D'accord. En vue de quoi doit-il le faire? De faire de toi, on le sait, une grande nation, c'est toujours bon de se le rappeler, et de te bénir. Alors moi je ne sais pas si c'est et de te bénir et la suite que je vais dire, ou bien c'est et de te bénir, ça veut dire quoi? Faire de toi un homme de grand nom, donc un homme de réputation, on en parle encore aujourd'hui d'Abraham, comme je l'ai dit dans les trois religions, une source de bénédiction pour les autres. Ben voilà, aujourd'hui on en parle, il m'a encore moi-même personnellement, je ne sais pas vous, béni, rien que de lire son humilité, où ceux qui te bénissent seront bénis par Dieu, et ceux qui vont outrager Abraham seront maudits par Dieu. Et on va le voir quand Jésus-Christ va dire, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, lui, il n'a pas eu envie de me tuer, mais vous bien, vous êtes des meurtriers. Votre père, c'est le fils du mensonge, du diable, hein, et le père du mensonge. Donc, c'est du... Donc, il est en train de dire, voilà, ils sont en train d'outrager le nom d'Abraham en disant cela. Et on va voir que c'est comme ça, souvent, que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. On se targue, c'est targué, hein, d'être le fils d'Abraham, et ça suffit. Donc, une terre, on l'a déjà vu ensemble, hein, nation, une grande nation, et une bénédiction, dont le renom. Je me suis demandé si c'était la bénédiction et le renom, donc la réputation. Okay, donc TNBR, voilà, pour ceux qui veulent s'en souvenir. Ensuite, Abraham, mine de rien, j'ai oublié de le mentionner, c'est un constructeur d'hôtels. Un constructeur d'hôtels. 5 étoiles, non, mais c'est intéressant, hein, 5 pierres plutôt que des étoiles. J'entends par là, ici. Donc, c'est quand même un homme qui sait ce que c'est que le sacrifice. C'est un homme qui constamment revient à sacrifier. Constamment, on va à Bethel faire un hôtel, à Sichem faire un hôtel, à plusieurs endroits comme ça. Oui, pour, en fait, c'est dire merci, Dieu était présent ici dans ma vie. En fait, c'est un homme qui sait prendre le temps de s'arrêter. C'est un homme qui sait prendre. Parce que, hein, bon, on fait des trucs, bam, 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 non! Il faut trouver les pierres, il faut les mettre ensemble, il faut trouver le chevreau, etc. Parce que maintenant, on n'a qu'à téléphoner, et puis après, on trouve un animal. Mais là-bas, il fallait les chercher, il fallait... Hein, c'était pas si simple. Il fallait les élever, il fallait qu'ils soient sans tâche, etc. Vous connaissez l'histoire. C'est un homme qui va prier aussi beaucoup, comme je l'ai dit. Entre-temps, les fils de Jacob étaient revenus des champs, et ils apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes en furent outrés. Et ils se mirent dans une grande colère parce que Sichem s'était rendu coupable d'inaction. Ah oui, ça c'était parce que je parlais de Sichem, mais ce Sichem, c'est cette personne qui va faire violer la sœur de la fille de Jacob plus tard. Enfin, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour nous maintenant, mais c'est pour vous situer Sichem. Alors, on sait qu'Abraham va se rendre en Égypte, bien sûr, à cause d'une famine à Canaan. Ce qui sera exactement la même chose avec Joseph et ses frères. Intéressant de voir qu'il y a des parallèles dans la Bible, oui. Hein? Les frères de Joseph vont quitter Canaan pour aller en Égypte. En passant, on sait qu'il y sera bien traité, car il laisse aux mains du Pharaon pour y être traité avec bonté son épouse. Oui? Ça, je l'ai dit. Suite à une dispute entre ces bergers et ceux de Lot, il va y avoir aussi une séparation qui va laisser un choix. Voilà, tu vas où tu veux, toi tu prends la peine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Mais ça, c'est un peu trop dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que Lot a vu une grande plaine et qu'il a été attiré par un espace finalement beau, plutôt que ce que Dieu va lui dire. Et c'est où qu'il va, Lot? C'est à l'est. Ça vous dit quelque chose d'aller à l'est? On l'a vu dans Genèse 4. L'endroit de perdition. Où il n'y a pas de jardin, etc. Donc c'est mentionné, c'est pour dire que finalement Lot était attiré par quelque chose qui allait être pourri après. Sodome et Gomorre, on connaît la suite. Donc c'est un petit détail qui passe, mais c'est qu'ils sont attirés par de nouveau aussi hein, ce qui est beau. Oui. Et puis finalement, il va tout récupérer. Abraham va avoir tout. On connaît la suite. On voit Abraham qui va être prévenu de cet enlèvement de son neveu. Et il y a 4 rois contre 5. Et lui, cet homme, comme je vous l'ai dit, est un homme d'armée qui a 318 hommes bien entraînés. C'est quand même pas mal, 318 hommes, nés dans sa maison. Donc ça veut dire que cet homme, Abraham, entraînait des gens qui avaient... on voit aussi qu'il avait... un comptable, j'ai vu ça après, quand il va envoyer cet homme pour aller chercher Rebecca, hein, ben c'est celui-là qui tient les comptes de la maison. Donc il est entouré de pas mal de gens pour avancer. Quoi. Et c'est là qu'on voit apparaître qui? Le roi de Salem. Oui, ça vous dit quelque chose cette histoire avec Melchisédek? C'est un peu une histoire à coucher dehors d'un homme dont on ne connaît ni le début ni la fin. Hein, cet homme qui est prêtre de Melchisédek, qui va être Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer cette histoire de Melchisédek. Mais ce qui est bien expliqué dans Hébreux 6 ou 7, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec nous plus tard. En tout cas, c'est un prêtre qui va être, quand il a battu les cinq rois là, c'est un prêtre qui va être sur sa route et qui va honorer par le dixième de son butin. Un petit passage qui passe comme ça. Donc, Abraham donne sa dîme. Intéressant. Et puis aussi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? Première fois qu'il partage le pain et le vin. On voit la scène, hein, le type, l'ombre des choses qui... Hein, on n'a pas encore fait la Pâque, là, à ce moment-là. On n'a pas encore fait Exode 12, on n'a pas... Et on voit qu'il y a le pain et le vin en guise d'amitié dans Genèse 14. OK ? C'est les petits détails que je vous dis comme ça, parce que c'est quand même balèze, tout ça. En tout cas, il rencontre ce roi de justice, prêtre de tous les temps, et je vous promets qu'on va revenir sur Hébreux 6 et 7, qui explique en tout le grand détail pourquoi est-ce que ce Melchisédek est important. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut le faire pour après, parce que ça s'explique longuement, ça. Mais revenons à ça, parce que c'était très important. J'ai mis du temps, je pense, des mois pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Mais quand j'ai compris, je fais « Ah ben oui, d'accord !» Ouais. Donc ça vaut la peine. Ça change plein de choses. En tout cas, c'est aussi un homme qui est invité à regarder le ciel. Hein. Bon, je ne sais pas s'il était astrologue, mais en tout cas, regarde les étoiles, compte-les. Hein. Astrologue. C'est pas astrologue, non ?
Astronome, c'est ça.
Mais astrologue, tu sais les étoiles, comment ça fonctionne, l'astrologie, non ?
Astrologue, c'est la divination.
Astrologue, c'est la divination. Astronome, c'est celui qui regarde les étoiles.
D'accord, mais c'est un peu des deux. Hein.
D'accord.
Au fond. Mais bon, c'est une petite boutade que je laisse. Parce que Dieu lui dit, regarde, ben, tu vois, toi qui doutes, parce qu'il va quand même envoyer sa femme avec... Enfin, c'est pas lui qui va envoyer sa femme, c'est lui qui va faire quick-quick avec une autre femme qui est Agar. Oui, quick-quick avec Agar. Et... Hein, faire crac-crac, hein. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que Abraham a été targué de polygamie. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? On a dit qu'Abraham était... En fait, il a eu trois femmes. Agar, Sarah et Quechua, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Hein. Si ce n'est pas la bonne. En tout cas, c'est un nom de femme qui s'éternue, donc vous le retenez. Mais je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Et alors, on dit, il était... Et moi, je pensais ça jusqu'à aujourd'hui. Et je vous invite à déjà faire un saut pour ne pas vous endormir que sur l'histoire d'Abraham, sur comment est-ce qu'on va utiliser Abraham dans Malachie 2.16. Je vous invite à aller voir Malachie 2.16. Si quelqu'un peut le lire, ce serait très chouette. Bon, quand vous pensez, vous qui connaissez, ceux qui connaissent bien, bien, bien la Bible, Malachie, vous pensez à quoi ? Malachie ?
Hein ? Dernier livre.
Dernier livre.
De quoi
est-ce que prophétie de Jésus. Premier fruit, non, il y a encore d'autres choses. Il y a Malachie, c'est...
Il y a pas les
dans, les, dans les trois chapitres de Malachie, on ne voit que ça. Je hais le divorce. Il va dire, il va parler de l'adultère, de comment on fait, etc., de plein de choses. Il va parler de ça constamment. Et je me suis dit, enfin, j'ai compris aujourd'hui pourquoi. Lisons Malachie 2.16, quelqu'un peut le lire ? Oui, en français. Vas-y, Malachie 2.16. Je ne l'ai pas ici, donc. Peut-être que je l'ai, mais plus loin.
Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles.
Ne soyez pas infidèles. Qui peut me lire Malachie 2.15 ? Clément, si tu veux bien, s'il te plaît. Malachie 2.15, écoutez bien, bien fort pour le truc qui enregistre ici.
Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Ne trahissez pas la femme de votre jeunesse.
Merci. Écoutez bien. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors, qu'a fait cet homme-là, Abraham ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là ? Il a couché avec une autre. Dont nous avons l'exemple, soi-disant c'est Abraham dont nous avons l'exemple. Moi je peux répudier ma femme, dit le peuple de Malachie. Et Dieu va dire, je hais le divorce. Pourquoi il dit, ah, vous vous dites, Abraham a pu, donc moi je peux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous tordez l'écriture, parce que qu'est-ce qui se passe? Il dit, il cherchait, lui, une descendance, Abraham, oui, qui lui vienne de Dieu. Restez dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. En fait, il est en train de dire, que vous le croyez ou pas, que vous êtes d'accord avec moi ou pas, en tout cas, je suis 100% sûr de ce que dit le texte ici, 100% sûr, c'est qu'il dit, en fait, Abraham n'est pas polygame. Premièrement, la femme il ne va pas la trahir, c'est sa femme qui va lui dire, va un peu avec l'autre, fais la mère porteuse, en fait. Un, ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est bien, hein, je ne dis pas, mais il va le faire. C'est quand même en cours aussi, Sarah qui va après vouloir la chasser, elle en a marre, parce que l'autre la méprise aussi, il faut bien savoir quand même. Hein? Agar va la mépriser quand même aussi, dans tout ça, il y a du mépris, hein, d'Agar. Donc, mais la troisième femme, et ça je l'ai vu aujourd'hui, elle est morte, Sarah. Donc il n'y a pas de polygamie dans Abraham. Et c'est ce qui se passe ici, c'est qu'il dit, vous prenez Abraham en vous disant, oui, Abraham, il a fait la chose, donc nous, on peut... Il dit, mais Abraham, mais gardez votre bon sens, c'est pas ça que l'Écriture dit. C'est intéressant, ça. De voir comment on peut utiliser l'Écriture pour essayer de définir. Et Malachi va tout le temps dire, restez avec la femme de votre jeunesse, dans la même façon que Dieu reste avec vous, fidèle, restez. C'est incroyable, quoi. Oui. Et ne prenez pas l'Écriture pour en tordre le sens. Enfin, c'est ça qu'il dit pour bien remettre la manière dont on utilise Abraham dans un bon sens. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai utilisé ce passage? Et quand je parlais tout à l'heure de prophète, enfin, on va un peu parler du sacrifice, mais quand je parlais du prophète Abraham, dans 15-13, Genèse 15-13, il dit ceci. Il va recevoir quelque chose d'énorme. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je suis sûr que oui, quand je vais le dire, mais maintenant, non. Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas pendant 400 ans. Oui, on en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura détruits en esclavage, c'est-à-dire l'Égypte. Ils auront leur tour. Oui. Donc, on voit que Abraham a des prophéties. Il reçoit des prophéties. Et il reçoit aussi la prophétie que sa génération va être la source de plusieurs rois. Dans Genèse 17, on voit qu'il y a plusieurs rois qui vont... Et c'est écrit à ce moment-là. Hein. Donc, c'est quand même fort de voir tout ce qui se prépare avec ce personnage. Et, bien sûr... il va lui dire seulement à la quatrième génération, tes descendants reviendront, donc c'est plus ou moins 4 fois 100, on va dire 4 fois 75, 4 fois 100. C'est à ce moment-là que Joseph arrive et que tout se passe comme par hasard. C'est intéressant de voir que les choses étaient écrites déjà à l'avance de tout ce qui allait se passer avec Joseph. Alors, je passe des détails. Je reviens quand même quelques secondes sur Ismaël, parce qu'il faut que je parle d'Isaac et d'Ismaël. La manière dont on va voir la descendance d'Ismaël, la dernière fois Marie nous l'avait dit, Ismaël, il est quand même béni. Oui, il est béni, Ismaël. Bien qu'il ne soit pas la descendance promise, il est béni. D'accord? Mais il y a une chose quand même que je n'avais pas vu dans le texte. C'est quand elle s'enfuit finalement, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui la met dehors, c'est elle, Agar, qui prend la poudre d'escampette parce qu'elle en a marre d'être maltraitée par sa maîtresse. On ne lui a pas demandé de partir, c'est elle qui part. Et Dieu, à ce moment-là, lui dit, humilie-toi devant ta maîtresse, humilie-toi parce que tu l'as méprisée. Et là, elle revient, oui. Et c'est plus tard après, et c'est la première fois, et c'est plus tard après, il va y avoir un incident très grave. C'est qu'au moment où l'allaitement de Isaac va se terminer, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant va rentrer en sevrage, c'est le mot, oui, ok, il va y avoir un grand festin. Donc, tu vois qu'on doit le faire. Hein, une fois que c'est fini, c'est un grand festin. Donc, les grands festins, oui, le grand festin. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, ben voilà, c'est lui l'héritier. Et là, Ismaël va faire quelque chose, il va rire. Et il va se moquer. Et va, et tu crois que c'est toi l'héritier? Ça va aller, t'as une bosse. Moi j'ai 15-16 ans, c'est pour moi, c'est dans quelques temps, là, c'est pour moi là. Et Galates, Paul va l'utiliser dans Galates en disant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un persécuteur et un persécuté. Il va dire, Ismaël est celui qui représente le persécuteur. Celui qui est né de quelle femme? La femme esclave. Alors que Isaac, c'est celui qui est né de la femme en cœur libre. Non, la femme libre. Il y a la femme, de Sarah, d'Agar, qui est la femme esclave. Et puis pourquoi? Parce qu'il va expliquer, en fait, il va dire, il y a deux types de personnages sur cette terre. Vous allez voir dans Galates, on va peut-être y revenir plus tard, mais dans Galates, il dit, il y a Galates 5, c'est porter du fruit ou bien porter... Enfin, il y a l'orgueil, etc. Puis de l'autre côté, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Okay? Et il est en train de dire... Hein?
Fruit de la chair.
Et il est en train de dire, quand vous êtes de la descendance de Isaac, oui, vous êtes de l'esprit, vous portez du fruit de l'esprit. Si vous êtes de l'enfant de Agar, c'est-à-dire d'Ismaël, vous êtes des persécuteurs. Et vous ne fonctionnez que par la chair. Vous êtes vous regardez que quoi, la Jérusalem physique. Et Abraham, il préparait la Jérusalem céleste. C'est incroyable comment il va utiliser ça. Je vous invite à revoir Galates 3, Galates 4, pour voir comment il va expliquer. Il dit, si vous êtes de la Jérusalem céleste, vous ne regardez plus aux choses qui se passent aujourd'hui, la Jérusalem d'aujourd'hui, hein, et dit non, il y a une autre Jérusalem qui est en train d'être préparée, celle dont Abraham a vu les fruits dans la présence du Messie. Parce que Jésus-Christ va dire, Abraham a vu mon jour, et il s'en est réjoui. Abraham m'a vu, plein d'allégresse. Il a vu la Jérusalem nouvelle. Et bien sûr, on a... un petit signe encore qui passe, c'est celle du nouveau nom, le signe de l'alliance, hein, la circoncision qui apparaît quand même dans Genèse 17, qui va être aussi une souffrance dans la chair, une marque dans la chair, qui va après s'estomper avec Paul, qui va de nouveau dire, mais il n'y a plus besoin de faire, c'est fini, la circoncision, c'est la circoncision du cœur, ça c'était un type des ombres des choses à venir, maintenant vous êtes... par l'Esprit du Christ, en Jésus-Christ, il n'y a plus besoin de passer par les œuvres de la loi. Ok, donc c'est un petit détail que je vous dis. Aussi, Ismaël, pardon, j'ai oublié, Ismaël va devenir un grand chasseur, ça c'est écrit, mais il va aussi choisir de se marier avec une femme égyptienne. Dans 21-21, il se mariera avec une femme d'Égypte. C'est d'ailleurs sa mère, Agar, une Égyptienne évidemment, qui va le pousser à le faire. Elle va dire, il faut te marier avec elle. Et il a une vie de débauche, enfin c'est une vie très désordonnée, nous dit l'Écriture. Donc, on voit quand même la suite dans les Écritures de notre cher, de ce cher Ismaël. Il va avoir des problèmes avec beaucoup d'ennemis sur la terre, nous dit le temps. Alors, je termine tout doucement pour l'histoire le deuxième volet, et puis on terminera très vite le troisième volet, vous inquiétez pas, avant de vous assommer. C'est que Abraham est un homme qui a un énorme souci de son enfant, de Isaac. Et j'ai trouvé ça très touchant, c'est que il y a plein de possibilités de se marier, etc. Et lui, il va dire, non, pas un Cananéen, à l'époque, hein, parce qu'en Cananéen, en Canaan, c'était pas jojo. Il dit, non, il va falloir que mon serviteur fasse tout le chemin inverse pour retourner et aller trouver la famille de Rebecca, Laban et tout ça, qu'on va voir après, hein, Laban, et pour aller trouver cette femme, Rebecca, hein, loin. Donc, il va faire quelques kilomètres de nouveau en retour pour aller trouver une personne de ma parenté. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit, ben, ça devrait être à Canaan, donc, hein, ou à Haran, ça devrait être. Et il dit, ça veut dire qu'en Mésopotamie, il y a des croyants, et dans le Cananéen, il n'y en a pas. Intéressant ça. Il pourrait dire, mais non. Donc c'est bien de comprendre dans l'histoire, c'est qu'en Canaan, qu'est-ce qui va se passer quand Josué va arriver? C'est pourri! Les Égyptiens, les blablabla, etc. Canaan n'est pas du tout comme elle doit être. Elle est corrompue. Et il va dire, votre problème, c'est que vous faites des alliances avec des gens de Canaan, parce que Dieu a dit qu'il fallait être avec des gens du pays promis. Mais non, le pays promis, pas avec n'importe qui du pays promis. Vous voyez, c'est intéressant. C'est que il faut bien remettre dans un contexte quand Dieu dit... oui. Et c'est pour ça qu'il l'envoie chercher Rebecca très 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 loin. Et puis elle va revenir, hein, vous connaissez l'histoire, elle va avoir deux bracelets d'or de 100 grammes chacun et un truc d'or de 6 grammes. Et elle va tout de suite se lever parce que le père dit, mais attends, deux semaines encore un petit peu avec ma fille. Non, 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 moi je veux repartir tout de suite. Et tout de suite elle se lève et elle s'en va. Et on parlera d'Isaac la prochaine fois. Mais je trouve que c'est beau que Abraham, avant de mourir, a vraiment à cœur son fils, le bien-être de son fils au niveau de la descendance et au niveau de l'écriture, au niveau de la promesse qu'il a reçue. Il dit, je veux le meilleur pour mon enfant. Le meilleur. Ça, je trouve ça excellent. Puis, il vit l'horreur. Il perd sa femme avant, hein, avant l'heure, on va dire. Lui va encore vivre quand même 50 ans, seul. Hein, 120 ans, elle meurt. Et ils avaient, je crois, une dizaine d'années de différence. C'est quand même beaucoup, 50 ans de veuvage. On oublie de le dire. Et c'est pour ça qu'il se remarie avec la personne. Voilà. Alors, je vous ai donné un avant-goût de ce qu'on fait de Abraham dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. En tout cas, j'ai déjà donné un exemple dans Malachie. C'est pour vous dire comment est-ce que... Mais je ne vais pas encore faire toutes les occurrences de Malachie dans l'Ancien, mais juste une ou deux de Nouveau Testament, d'accord? Et on terminera là. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie que ce soit une application pour nous, pour chacun de nous. Bien sûr, on voit Abraham tout le temps dans le fait qu'Abraham est dans les généalogies. Donc je passe tous ces passages-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand il parle de les œuvres d'Abraham. C'est que dans Romains, il va dire « Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. » Romains 4. Et puis, il y a les Juifs qui disent « Oui, mais nous, on a la loi. Nous, on a la loi. » Et puis, Paul y fait « Mais la loi, elle est venue après Abraham ou avant Abraham ?» Après. Donc, la loi, elle vient après. Donc, ça veut dire « Regardez la foi qu'Abraham avait. Abraham avait la foi sans la loi. » Il dit « La loi, elle est venue après. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la foi qui nous justifie, pas la loi. Vous voyez comment il va faire? Il est géant, quoi. Paul, il a tout compris. Il dit, Abraham précède, Exode 20, qui est les 10 commandements. Il dit, la loi, elle est donnée simplement pour montrer qu'on pêche, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il aborde les croyants de l'époque comme ça. Paf! Et une autre qu'il fait très souvent, enfin, en deux endroits, avec Jacques et Paul, c'est la foi et les œuvres, l'œuvre et la foi. Abraham crut et il a agi. Oui. Mais ses œuvres ont montré, et on le voit en fait, j'ai trouvé ça très très beau, c'est qu'on pourrait dire, ah mais donc une fois que tu as la foi, c'est bon. Et il est en train de dire, mais regardez, Abraham, il est toujours en train d'être transformé. Il apprend ses erreurs avec Abimélec. Il fait, bon, ma femme, c'est ma soeur, enfin c'est pas, mais hop. Et puis après, il se repent et avec Abimélec, ils deviennent des... Ok. Je trouve que c'est ça que je trouve génial, c'est que il y a toujours une grâce. Et Abraham est un homme qui est sauvé, qui est en train d'être sauvé et qui a la foi d'être un jour tout à fait pleinement sauvé. Il est en train, c'est une foi qui est agissante. Et c'est comme ça qu'on va le voir dans Jacques quand il va dire quelle était la foi de Abraham. C'est une foi, et on va le comparer avec Rahab, une prostituée. Hein, regardez la foi d'une prostituée, Rahab, et regardez la foi d'un Abraham. Oui, il se trompe, il avance, et c'est sa foi qui l'a justifié, pas les œuvres. Mais les œuvres vont montrer dans son action, les œuvres de repentance, les œuvres de... On ne le voit pas se repentir, mais je trouve que ça, c'est clair dans les Écritures, que c'est un homme. Donc pour nous, dans notre application, je pense que c'est intéressant de vraiment, quand on va étudier la Bible, de toujours bien voir comment il est utilisé dans le futur, herméneutiquement, dans la manière dont, pas moi j'ai envie d'interpréter, mais comment est-ce que Abraham est interprété, pour que moi, quand je lis Abraham, je peux mieux le comprendre pour ma vie. Et c'est quand j'ai commencé à faire Abraham dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que j'ai commencé à voir qu'Abraham, hein, tu sais, c'est toujours cette question, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Oui. Est-ce que dans mes erreurs, je me repens? Comme avec mon frère, comme je disais tout à l'heure, avec mon frère, j'ai peut-être fait des erreurs, lui aussi. Mais on est arrivé, moi j'étais en intercession, je me dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Et ça s'est fait. Est-ce que l'erreur, Dieu l'utilise, mais Dieu nous apprend et nous transforme. Est-ce que mes œuvres se voient dans ma vie, dans une vie de repentance? C'est super. Merci Abraham, merci Seigneur pour ton écriture. Je vous invite à prier. Merci parce que il y a tellement de richesses, Seigneur, dans ton conseil biblique. C'est... Tu as tellement à nous montrer. Comme je disais aussi à Spiro, te lire, te découvrir, c'est vraiment rentrer dans ton intelligence, dans ta beauté pour nous rendre compte que tu nous aimes et que tu veux vraiment nous guider dans un quotidien. Quand on fait les faux pas, tu nous ramènes à toi, comme tu l'as fait avec Abraham. Pas un homme parfait, mais pourtant un homme de grande renom, de grandeur, un homme qui chaque jour revenait sans cesse sur ce qu'il a fait, invoquait ton nom, s'arrêtait dans les hôtels pour construire des hôtels pour être vraiment dans une présence du quotidien de remerciement, de gratitude et d'avancer et de montrer par ses œuvres que oui, il était justifié, que sa foi ne venait pas de lui, mais de toi. Bénisse les Péromiens ici, bénis chacun. Nos conversations et le bon moment qu'on va avoir maintenant pour célébrer juste une petite fête. En ton nom, Seigneur Jésus, te prions pour ta gloire. Amen.